Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, ici Lucie. Vous écoutez L'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la ligne B du métro, c'est reparti. Une interview avec la coopérative funéraire de Rennes qui a besoin de vous pour financer son festival de la mort. Il y aura de la musique dont une nouveauté, un reportage au restaurant La Pimuette qui participe au Refugee Food Festival, c'est à vivre jusqu'à dimanche. Et puis, deux recommandations pour le week-end, Fest Days et Alerte Féministe. Bienvenue dans L'Arène. Et c'est parti, on lance l'émission d'information locale comme chaque jour avec une info du jour, une sélectionnée dans la presse locale. Aujourd'hui, on n'y croyait plus et pourtant c'est bien réel, la ligne B du métro a été remise en service, donc ce jeudi 20 juin sur les coups de midi. Veille de la fête de la musique, ça tombe bien puisque ce rendez-vous attire un public nombreux en centre-ville. Ça faisait 5 mois que la ligne était à l'arrêt en raison d'une pièce défectueuse qui a été remplacée sur l'ensemble des rames. Et donc ça y est, la ligne B du métro a été relancée un peu par surprise, il faut le dire. Ce sont 16 rames qui sont opérationnelles à partir d'aujourd'hui, 16 sur 25. Ça permet d'assurer le passage d'un métro toutes les 2 minutes 50 en heure de pointe. Une cadence qui est jugée suffisante, vu que l'été est une période de fréquentation un peu plus faible. De nouvelles rames intégreront ensuite le carrousel au fur et à mesure, avec un service équivalent à celui d'avant l'incident, annoncé pour septembre. Le réseau de bus en place avant la panne, il sera lui effectif à partir du lundi 8 juillet, avec dans le même temps un passage aux horaires d'été et ce jusqu'au 2 septembre. Il va donc y avoir besoin d'une petite période d'ajustement pour les usagers. Autre précision, la navette de centre-ville ne redémarrera, elle, pas avant la rentrée scolaire de septembre, en raison de travaux en centre-ville. Et on termine avec les mots de la maire de Rennes, Nathalie Perret, qu'on imagine soulagée et qui tient à remercier salariés, chefs d'entreprise ou commerçants pour leur patience et dont le quotidien a été impacté par l'arrêt du métro. Allez, après cette bonne info, on passe à l'interview du jour. Grégory Neuviard, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'un des fondateurs de la coopérative funéraire de Rennes, une entreprise de pompes funèbres, mais pas tout à fait comme les autres, et qui va organiser son premier festival de la mort au mois de septembre. Aujourd'hui, vous êtes en train de chercher à financer cet événement qui est ambitieux. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la coopérative funéraire, on représente un peu ce projet original qui peut surprendre, voire même peut-être un peu repousser au départ quand on sait le tabou qu'il y a autour de la mort dans notre société française, occidentale.
Alors je vais déjà reprendre les choses. Je suis plutôt l'une des fondatrices. C'est essentiellement des femmes qui ont porté ce projet au départ. On était une quinzaine. L'idée, c'était de mettre en place une alternative dans le domaine du funéraire qui sorte, on va dire, d'une approche marchande et qui favorise une approche liée à l'accompagnement des familles. Alors, est-ce que ça rebute ? Non, justement, je pense que le fait que moi j'ai pu faire mon coming out professionnel, on va dire, dans ce domaine-là, c'est que justement la dynamique ou la capsule de la coopérative donne plusieurs dimensions. Elle donne à la fois une dimension de se réapproprier de la question de la mort et notamment de nos propres obsèques, puisque aucune de nous n'était propre au domaine du funéraire, et donc c'est comment on s'est approprié de cette question-là. On a acquis l'ensemble des moyens humains et techniques pour pouvoir accompagner les familles dès lors qu'il est question d'organiser les obsèques. Et puis le deuxième grand pilier, je dirais presque c'est un pilier citoyen, politique, qui permet de nous engager sur des chemins qui sont plutôt... Ça va être bizarre de vous dire, mais presque excitant intellectuellement, excitant dans la dynamique citoyenne que ça peut occasionner et qui engage chacun et chacune à pouvoir rentrer dans cette coopérative pour devenir acteur ou actrice de ce mouvement-là, qui est justement comment faire de manière à ce que la mort ne soit plus tabou dans notre cité.
Donc depuis le lancement, c'était fin 2019, hein, c'est bien ça, sur la temporalité.
Ouverture le 11 janvier 2020.
Et depuis donc 2020, les équipes se sont enrichies. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Il y a en salariés, il y a vous, et il y a des sociétaires, des bénévoles, tout ça se mélange ?
Alors ça se mélange dans... la gestion de l'entreprise, en tout cas dans la pensée de l'entreprise. Il y a une présidente, Isabelle Georges, il y a une forme de ce qu'on appelle le COSDEF, donc qui est comme un CA, qui est représentatif de l'ensemble des membres de la coopérative, puisque c'est une SIC, donc elle comporte plusieurs collèges qui sont représentés auprès de cette instance-là. Au quotidien, on est 4 salariés, donc 3 conseillers célébrants. On vient de, justement d'accueillir une Lucille Milliard qui vient nous rejoindre, moi et Isabelle, au travail au quotidien, et Charlotte qui est la comptable. Donc on est 4 salariés, mais c'est 500 membres maintenant dans la coopérative.
Alors je disais, pour commencer l'échange, je parlais d'une entreprise de pompes funèbres pas comme les autres. On a déjà commencé à comprendre en quoi elle n'est pas comme les autres. C'est lié notamment à votre modèle de coopérative, à l'envie de prendre un peu des distances avec un secteur qui est touché par la spéculation, on peut le dire comme ça. En tout, vous avez accompagné plus de 300 familles en 4 ans, donc, qui viennent chercher quoi auprès de vous ?
C'est pas un secteur qui est touché par la spéculation, c'est un domaine qui est touché par un phénomène de concentration très très forte. C'est un domaine qui, juste pour que chacun et chacune ait une visibilité, c'est quand même une génération, les baby boomers qui vont venir à partir. Je suis le dernier représentant, les années 71. Les premiers sont mes parents, donc vous voyez, je suis même touché intimement par cela. Mais en fait, c'est une manne financière qui est juste vertigineuse. C'est un des seuls secteurs économiques, on va dire, qui permettent d'avoir une visibilité sur 30 ans. Avec des perspectives d'argent très conséquentes. Donc il y a le domaine du financier qui est en train d'apparaître à l'intérieur de ce domaine, qui met en place un rachat massif de n'importe quelle entreprise qui sont mises en vente. Face à cela, en fait, on s'inscrit à l'intérieur de cette dynamique-là en favorisant en fait l'engagement des citoyens à l'intérieur de cela et faire de manière à ce comment chacun et chacune on va pouvoir se réapproprier de cette question. Elle nous appartient, la question de la mort, et notre propre mort nous appartient. Et c'est comment on se réapproprie des moyens techniques et des moyens humains pour faire de manière à ce qu'on soit nous-mêmes en capacité de prendre les décisions qui sont les nôtres dès lors qu'on vient à partir. Le rôle d'une coopérative est celui-là, c'est de favoriser un endroit où on se sente en sécurité pour que on puisse se réapproprier de cette question-là.
Très concrètement, quel type de demande on peut venir vous faire et qu'on n'aurait pas osé faire dans une entreprise de pompes funèbres classique ?
Dès lors que quelqu'un vient à partir, en fait, souvent les personnes n'ont pas accès ou n'ont pas eu accès à l'information. Et en fait, notre rôle à nous, c'est justement donner le maximum d'informations pour que le chemin puisse être compris par les proches, de manière à ce que les choix ou les décisions soient prises en connaissance de cause. Donc, je pourrais dire que presque à chacune des étapes, en fait, les choix sont exprimés, mais parce que l'information leur a été donnée de manière à comprendre. Je vais caricaturer parce qu'on a besoin d'images des fois pour comprendre les choses. Ce que j'explique souvent, c'est que c'est comme si nous, on était à l'orée d'un bois très sombre, obscur, mais il faut que chacune des familles, à chaque fois, traverse ce bois-là. Mais c'est comment on le traverse ? Il peut y avoir évidemment les autoroutes qui nous permettent d'aller d'un point A à un point B. On sait que celles-là, elles sont balisées, elles sont standardisées. Je dirais que le secteur classique, en fait, les a balisées. Une coopérative, en fait, va explorer un certain nombre de chemins qui n'ont jamais été explorés parce que c'est les familles qui nous demandent est-ce qu'on pourrait aller à droite à cet endroit-là ? Et si légalement, en fait, dans ce cadre-là, il est possible d'y aller, on va y aller. Et chaque fois qu'un nouveau chemin est ouvert dans cette forêt, en fait, on le donne à connaître aux autres familles. Donc, on est comme, quelque part, des légataires des histoires des autres et qui, petit à petit, ouvrent des chemins. En sachant que l'issue pour chacun et chacune va être la même. C'est-à-dire qu'on va aller soit vers la crémation ou soit vers l'inhumation. Donc, on va tous sortir de la forêt, mais c'est comment on en sort. Et l'important pour nous, c'est de faire de manière à ce que quand on en sort, on puisse se dire que ce qui a été fait a été juste. Et pour cela, en fait, il faut que ça soit en adéquation avec l'histoire de la famille, il faut que ça soit en adéquation avec le sens de ce que chacun des gestes qui va être déposé, chacune des paroles soit porté en conscience, quoi.
Peut-être que ces différents chemins que vous évoquez, et même sûrement ils seront évoqués lors du Festival de la Mort, puisque donc au-delà de l'activité d'accompagnement de proches, de défunts, vous cherchez plus largement à recréer du bien commun autour de la mort, on le lit en ces mots sur votre site internet. Côté événementiel, il y avait déjà les cafés mortels, des rencontres pour parler pêle-mêle des fleurs, de la musique, de la bande dessinée, tout ça raccroché au sujet de la mort. Il y en a eu une vingtaine, je crois.
21 déjà.
Et ces moments-là affichent très souvent complet, c'est qu'il y a un besoin de venir parler de ces sujets.
Quelle belle surprise ces cafés mortels. On a commencé, je pense qu'on devait être une trentaine de personnes et petit à petit, on a presque constitué un socle d'une de 70 personnes qui viennent de manière récurrente à ces cafés mortels. Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? En fait, ils y trouvent un cadre agréable, convivial, c'est toujours dans un café. Ils y trouvent une parole qui est donnée par des expertes et des experts, enfin des sachants et des sachantes, des gens qui sont dans la pratique ou dans la recherche. Donc ils ont accès à une certaine forme d'information et ils ont aussi accès à, dans un second temps, à un espace de liberté de parole, d'échange et à un endroit où on se sent pas seul. Je pense que quand on vient à perdre un proche, en fait, il y a une forme de solitude qui se met en place après. Et savoir qu'on peut trouver en fait des endroits où cette parole peut être déposée, partagée, mais de manière simple, autour d'une bière, d'un café, c'est se sentir en sécurité, se sentir en communauté. Et c'est vraiment ça qu'on a découvert avec les cafés mortels. Ça n'a pas été réellement pensé sur de ce fait-là, mais c'est ce qu'on a constaté petit à petit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un café mortel, c'est souvent 120 personnes. On peut aller jusqu'à 180 personnes en fonction des sujets. Mais c'est quelque chose qui devient une forme de repère dans la cité. Et c'est ce qu'on a constitué avec les cafés mortels.
Le dernier café mortel, il avait lieu au mois d'avril sur le thème de la mort dans les médias. Et le prochain, ce sera au mois de juillet. Il en reste un pendant l'été.
La mise en place des cafés mortels se fait comme une forme autour d'opportunités. Là, on a l'opportunité d'avoir une photographe qui a travaillé pendant de nombreux mois en immersion dans le domaine du funéraire et a sorti un travail autour photographique assez conséquent. Elle est aux États-Unis et elle arrive à Rennes le 23 juillet et c'était vraiment l'occasion de la rencontrer et
de l'accueillir
et puis de donner à voir ce travail-là. Qu'est-ce que veut dire photographier la mort ?
Et donc cette photographe, c'est Anaïde de Dieu le veut, qui sera présente à Rennes pour un café mortel sur la mort en photo le 23 juillet prochain. Et au-delà de ces cafés mortels, déjà bien installés dans le paysage rennais, une nouvelle proposition pour parler de la mort au grand public, carrément un festival. Ça se passera au Théâtre du Vieux-Saint-Étienne à Rennes du 20 au 22 septembre. Idée ambitieuse, est-ce que ça existe ailleurs, un festival de la mort ?
Je pense qu'il y a des endroits où il y a eu des espaces d'exploration. On pourrait dire que le dernier festival de l'histoire à Blois explorait la thématique de la mort, mais à travers des historiens, on va dire, qui ont été jusqu'à l'Antiquité. Là, c'était comment faire de manière à ce que ce sujet qui est extrêmement contemporain puisse éveiller ou réfléchir sur qu'est-ce que sera la mort au XXIe siècle. Comment on peut l'approcher pour demain ? Et à travers des pratiques, à travers des savoirs, hein, et c'est comment ces pratiques et ces savoirs se rencontrent de manière à peut-être faire surgir ou émerger de nouvelles façons de regarder. Je pense qu'entrevoir aujourd'hui la mort au XXIe siècle est essentiel. On ne peut plus envisager d'accompagner nos proches dès lors qu'ils viennent à partir de la même manière qu'on l'a fait pendant le XXIe siècle. Comment on repense les cimetières, comment on repense la place du geste, comment on repense la place de la parole et du sens. Tout ça va être bousculé avec les pratiques de demain. Donc c'est un peu le rôle du festival, c'est offrir encore une fois un espace convivial de manière à ce que chacun et chacune puisse errer, peut-être explorer, mais peut-être butiner et peut-être découvrir aussi des choses auxquelles il n'aura pas pensé, de manière à ce que ça ouvre la palette des domaines des possibles.
Si on parle de ce festival dès le mois de juin, alors qu'il a lieu au mois de septembre, c'est que vous êtes en train de chercher à le financer. Vous avez lancé une campagne de financement participatif, je crois, il y a une dizaine de jours, parce qu'en tant que donc entreprise coopérative, vous ne pouvez pas être soutenu par les collectivités locales. C'est un peu technique, mais ça vaut le coup de le dire aux auditeurs quand même pour expliquer pourquoi on vous retrouve sur kengo.bzh.
La cité, sa relation avec les entreprises de fonds funèbres oblige la cité à être neutre. Elle ne peut pas s'engager vis-à-vis d'une entreprise de fonds funèbres plus qu'une autre, quoi. Donc ça limite en fait la possibilité d'engager la cité sur cette thématique-là dès lors que c'est une entreprise de pompes funèbres qui porte le projet. La coopérative a décidé de porter ce projet-là. Elle a décidé de ne pas créer une association autre qui aurait peut-être permis ce genre de financement. Et parce qu'on considère que la coopérative funéraire de Rennes, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, a un rôle citoyen et qu'elle se doit de générer ou de mettre en place des espaces comme celui-là. Et donc ça crée une fragilité ou une difficulté à trouver des financements de ce fait-là. Et mettre en place un financement participatif a pour nous deux fonctions. La première est justement de nous permettre d'engager ce festival de belle manière. Et la deuxième, je pourrais dire que c'est plus de gens vont participer à ce financement participatif, plus on pourra montrer que cette question de la mort a une raison d'être dans la cité.
Alors il reste 21 jours si des auditeurs qui nous entendent souhaitent participer. Donc ça se passe en ligne sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Un premier palier de 7000 euros a déjà été atteint. Vous fonctionnez par paliers qui vous permettront d'élargir le financement de ce festival.
En fait, chacun et chacune, quand vous accédez en fait à cette plateforme de financement participatif, vous avez accès à des contreparties. Un certain nombre de ces contreparties, en fait, vont permettre d'avoir accès à des spectacles. Ça va même donner une priorité en fait à ces personnes-là qui vont participer. En participant au financement participatif, ça donne deux dynamiques. C'est je veux participer à tel spectacle, mais je soutiens aussi l'idée de ce festival. Donc, il y a ces doubles choses qui existent au sein de ce financement participatif. Ça n'empêche pas que si des gens veulent juste soutenir le festival, même s'ils habitent à, je sais pas, à l'autre bout de la France, il est possible de le faire. Parce que c'est aussi soutenir l'idée qu'un festival de la mort puisse exister dans notre cité, quoi.
Parmi les contreparties, je donne quelques exemples, notamment un atelier floral ou encore une soirée conte qui se dérouleront, pas forcément d'ailleurs au moment du festival, hein, y a certaines contreparties qui sont avant, je crois, durant l'été.
Il y a des contreparties qui sont avant, il y a des contreparties qui vont être pendant, des contreparties qui vont peut-être être après. En fait, il y a des éléments qui vont faire partie du festival et il y a des personnes, parce que la coopérative reste un espace d'accueil de plein de pratiques artistiques ou autres, et il y a des gens qu'on a rencontrés qui sont un peu des amis de la coopérative qui ont dit « Ok, notre manière de vous soutenir, c'est qu'on puisse, par exemple, vous proposer une soirée conte ou une soirée chant. » Et donc, ça nous permet à nous de donner cette contrepartie aux gens et de nous recevoir une partie du financement pour pouvoir avancer dans le cadre de ce festival.
Alors, j'imagine que le programme du Festival de la Mort, il est encore en construction, mais on peut déjà en dévoiler quelques propositions à retrouver en ligne sur le site lacopfunéraire-de-rennes.fr. Ce festival, pour cette première édition, s'intéressera à pas mal de choses, mais on retrouve de la nourriture, des objets et des sons.
C'est ça. Il fallait circonscrire un peu le domaine d'exploration. La mort, en fait, est en relation avec la vie, mais de manière intrinsèque. Et elle questionne même la question de notre vivre ensemble. Et il fallait qu'on circonscrise cela. Et c'est le groupe, on est une douzaine de personnes qui avons travaillé à la genèse de ce festival. Et il y avait certaines appétences. Et c'était comment se faire croiser ces appétences-là de manière à pouvoir faire surgir certains savoirs. Et donc, en effet, on s'est focalisé sur l'idée de la nourriture à travers le fait qu'il va y avoir un banquet. On s'est focalisé sur l'idée qu'il y ait des sons à travers justement ce cœur mortel qu'on a mis en place, à travers une collecte de sons qui est fait par un projet qui s'appelle les Brodeuses de sons. Il va y avoir aussi quelqu'un qui travaille autour de la musique électronique en direct. Et puis il y a un travail des objets. Le travail des objets en fait fait sens aussi, que ça soit moi dans mon travail au quotidien, c'est-à-dire quelle est la place de l'objet dans une cérémonie funéraire et comment cet objet se déplace d'une sphère intime pour devenir quelque chose de public ou même qui devienne un fait communautaire. Et donc c'est toutes ces questions-là en fait qu'on va traverser pendant le festival.
Sur la dimension objet, on peut parler de cette collaboration, le peuple des objets, alors qui sera mise en lumière au sein du Festival de la Mort au mois de septembre et pour laquelle un atelier arrive là bientôt à la fin du mois de juin. Je crois qu'il reste des places.
À la fin du mois de juin a lieu, alors c'est le peuple des objets fait partie de notre dynamique qu'on a appelé les laboratoires. Les laboratoires se sont installés à différents endroits. Donc c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire qui a été créé au sein d'une école de design qui s'appelle LISA, avec des étudiants qui réfléchissent depuis le début de l'année sur la question de la mort. Et toute cette recherche-là va être restituée lors du festival. Le peuple des objets, c'est la même chose. Il y a une collecte en amont, on va dire de reliquaires, créés et mis en forme par tout à chacun qui a envie de participer à cet atelier qui est porté par une artiste plasticienne juste, je dirais, magique, géniale, qui s'appelle Lucie Marceau, qui a vraiment une force à arriver à nous permettre de créer des objets qui sont en relation avec quelqu'un qui est venu à partir dans notre vie et qui fasse écho à cette personne-là. L'ensemble de ces objets-là, ils seront déposés dans le cadre du festival dans une grande installation qu'elle va mettre en place, de manière à ce que, on va dire, presque l'ensemble de ces défunts et défuntes fassent corps ensemble. C'est toujours l'idée de cette communauté. On n'est pas seul, on est multiples ensemble. Et c'est donner à voir ou à reconnaître justement ces identités-là, quoi.
Pour participer à cet atelier, le peuple des objets, ça se passe au bar à nous, ce bar dont on a déjà parlé, qui est installé à Saint-Senoux. Et l'atelier aura lieu les 29 et 30 juin prochains sur une durée de 2 heures. Et les tarifs vont de 15 à 25 euros. Vous pouvez retrouver le détail en ligne sur le site lacopfunéraire-de-rennes.fr. Également au programme sur ce festival de la mort, j'ai noté des conférences, des expérimentations artistiques, des projections, expositions, le son du glas mixé un matin à 6 heures dans une ancienne église.
Alors l'ancienne église, c'est le vieux Saint-Étienne, c'est le siège,
le
quartier général du festival. Ça sera peut-être pas à 6 heures, on a reconsidéré les choses, ça va être un peu après, mais c'est justement cela, c'est comment on peut aussi des fois proposer des actes un petit peu étonnants et puis traverser en fait ce son du glas qui va être trituré par Vincent Rhodes et nous amener à peut-être errer dans un endroit où on n'avait pas envisagé. Et c'est vraiment, chacune des propositions va dans ce sens-là. On ne sait pas vraiment ce vers quoi on tend. On sait ce qu'on dépose et peut-être se passera des choses invisibles, et c'est vers cet invisible qu'on cherche à aller.
On aura le temps d'en reparler plus dans le détail quand la programmation sera officiellement sortie. Grégory Neuviard, donc de la coopérative funéraire de Rennes, cette entreprise de pompes funèbres pas comme les autres, qui va organiser son premier festival de la mort au mois de septembre et qui cherche en ce moment à financer cet événement. Si vous souhaitez filer un coup de pouce, eh bien ça se passe en ligne sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh, et vous retrouverez aussi la coopérative en ligne sur lacopfunéraire-de-rennes.fr. Merci beaucoup.
Merci.
C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque tangible, car l'amour qu'on leur donnait est orphelin et cherche une cible. Pour certains, on le savait, on s'était préparé au pire, mais d'autres ont disparu d'un seul coup sans prévenir. On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans notre accord, car la mort a ses raisons que notre raison ignore. Alors on s'est regroupé d'un réconfort utopiste. À plusieurs on est plus fort, mais on n'est pas moins triste. C'est seul qu'on fait son deuil, car on est seul quand on ressent. On apprivoise la douleur et la présence de nos absents. Nos absents sont toujours là, à l'esprit, dans nos souvenirs, sur ce film de vacances, sur ces photos pleines de sourires. Nos absents nous entourent et resteront à nos côtés. Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si de rien n'était. On se rassure face à la souffrance qui nous serre le cou, en se disant que là où ils sont, ils ont sûrement moins mal que nous. Alors on marche, on rit, on chante, mais leur ombre demeure dans un coin de nos cerveaux, dans un coin de notre bonheur. Nous on a des projets, on dessine nos lendemains, on décide du chemin, on regarde l'avenir entre nos mains. Et au cœur de l'action, dans nos victoires ou nos enfers, on imagine de temps en temps que nos absents nous voient faire. Chaque vie est un miracle, mais le final est énervant. Je me suis bien renseigné, on n'en sortira pas vivant. Il faut apprendre à l'accepter pour essayer de vieillir heureux, mais chaque année nos absents sont un petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle disparition transforme nos cœurs en dentelles, mais le temps passe et les douleurs vives deviennent pastelles. Ce temps qui pour une fois est un véritable allié, chaque heure passée est une pommade, il en faudra des milliers. Les morts, les disparus, je n'en parle pas beaucoup. Alors j'écris sur eux, je titille mes sujets tabous. Ce grand mystère qui nous attend, notre ultime point commun à tous, qui fait qu'on court après la vie, sachant que la mort est à nos trousses. C'est pas vraiment des fantômes, mais leur absence est tellement forte qu'elle crée en nous une présence qui nous rend faibles ou nous supporte. C'est ceux qu'on a aimés qui créent un vide presque infini, qu'inspirent des textes premier degré. Faut dire que la mort manque d'ironie.
Nos absents par le slammer Grand Corps Malade sur Canal B. C'était le choix musical de Grégory Neuviard de la coopérative funéraire de Rennes. Un titre à retrouver sur l'album Troisième Temps, c'est sorti en 2010. Vous venez d'en entendre un extrait dans la Rennes, l'émission d'information locale de Canal B. Un programme à écouter du lundi au vendredi à 17h sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr, un site internet où vous retrouverez les podcasts de ces émissions, mais aussi de l'ensemble des programmes concoctés par des salariés et des bénévoles, puisqu'on est une association. Allez, on poursuit l'émission du jour avec un reportage. Et direction le restaurant La Pie Muette à Chantepie, qui accueillait mercredi 19, mais aussi là, ce jeudi 20 juin, un dîner dans le cadre du Refugee Food Festival. C'est la 9e édition de cet événement à l'échelle nationale, qui est cette année déclinée dans 12 villes de France et même en Suisse. L'idée, c'est de faire collaborer des chefs avec des cuisiniers réfugiés dans une logique d'insertion, mais aussi d'interculturalité. Il reste des places et des dates donc sur la programmation Rennes, c'est à retrouver en ligne sur festival.refugee-food.org.
Ok. Et là j'avance. Je pense que c'est parce que j'ai les mains humides.
Le Refugee Food Festival, c'est un festival citoyen qui a lieu depuis 6 ans à Rennes. Bonjour, je m'appelle Manon Cugnot, je suis une des co-porteuses du Refugee Food Festival à Rennes. 6 ans à Rennes et 9 ans au niveau national puisque ça a été créé à Paris. Et ça a lieu en parallèle dans 12 villes en France et à Genève cette année. Ça a été dans d'autres villes aussi, d'autres années en plus, mais voilà, ça va, ça vient. Et du coup, c'est un festival autour de la cuisine et pour accompagner à l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Où on propose des collaborations entre des restaurateurs rennais et des cuisinières ou cuisiniers réfugiés dont c'est pas forcément tout le temps le métier, mais qui souhaitent avoir un projet professionnel dans la cuisine, à collaborer, à concevoir et penser des menus à quatre mains pour des déjeuners, des dîners, des brunchs ou tout autre événement culinaire.
On essaye de citer les villes concernées par le Refugee Food Festival cette année.
Alors on a Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, Tours, Lille, Dijon, Genève.
Il faut expliquer que là on se retrouve pendant donc un festival qui est le temps fort durant l'année, mais il se passe d'autres choses le reste de l'année toujours autour de ce projet.
Oui, tout à fait. Il y a des ateliers de cuisine qui sont organisés aussi hors cadre du festival, qui sont animés par des cuisinières ou cuisiniers réfugiés. Il y a une partie aide alimentaire à Paris. Il y a des formations aussi pour les personnes réfugiées, pour les former à différents métiers de la cuisine. La formation Sésame notamment et Tournesol. On a aussi une partie Refugee Food Éducation, où du coup c'est des journées dans des collèges ou des lycées de sensibilisation auprès des élèves, et donc avec une partie restauration aussi dans les cantines scolaires. On a aussi un restaurant de résidence à Paris, à Grande Contrôle, et une partie traiteur et un restaurant solidaire, les Arbus à Paris également.
Peut-être sur l'évolution du projet depuis qu'il a été lancé. Là, on arrive à la 9e édition à l'échelle nationale. Il se trouve que le secteur de la restauration a des besoins en fait en personnel qui sont devenus de plus en plus importants avec les années. Est-ce que vous avez des retours de restaurateurs pour qui justement une initiative comme celle-ci elle a bienvenue?
Oui, tout à fait. La restauration, c'est un secteur qui a un besoin de main-d'œuvre, de personnes qui sont motivées, qui ont envie d'apprendre et de travailler. Et en parallèle, nous, on a plein de personnes qui n'attendent que ça, de pouvoir travailler et de s'insérer professionnellement, de s'insérer même tout court dans la vie locale. Mais du coup, grâce au travail, c'est un gros pas. Donc les restaurateurs sont super contents. Et nous, du coup, au fur et à mesure des années, on crée vraiment un réseau de restaurants et de restaurateurs qui vont avoir des fois des besoins en cuisinière, cuisinier, des commis, qui prennent des alternants, qui prennent des stagiaires. Et donc, nous, l'idée, c'est de vraiment faire le lien d'année en année et de créer ce réseau et de l'animer aussi pour qu'eux puissent trouver des profils intéressants.
À À Rennes, vous êtes combien dans les équipes pour faire vivre l'édition rennaise du Refugee Food Festival ?
Alors, on est deux à co-porter le projet. On est soutenu par toute l'équipe de l'association au niveau national qui est salariée, qui est située à Paris. Et du coup, Élise et moi, on est épaulés par une petite équipe de bénévoles. Cette année, on a 4 bénévoles qui sont avec nous, mais ça varie d'année en année.
Et donc, des restaurants, écoles aussi partenaires cette année ? Est-ce que c'est à chaque année des nouveaux restaurants ou il y en a peut-être qui retentent l'aventure d'année en année ?
Alors, les années précédentes, on avait pas mal de restaurants qui tentaient l'aventure d'année en année. Et cette année, on a pris le parti de se dire qu'on voulait sensibiliser de manière encore plus large. Donc, on a fait le choix de s'excentrer un petit peu aussi du centre-ville, notamment avec la Pimuette, qui est du coup dans la métropole rennaise, mais pas à Rennes même. Et aussi dans le quartier de la Courrouze avec le restaurant Bloom Pop. On a aussi les restaurants chez Petit Louis, les Bavardes et Passage. Donc aucun d'eux n'avait participé les années précédentes. Et cette année, la grande première, c'est qu'on a fait une collaboration qui était géniale avec deux classes d'école maternelle grâce à l'école comestible, qui est une autre association qui fait de la sensibilisation auprès des élèves d'écoles publiques maternelles et primaires autour de l'alimentation et du mieux manger. Et on a aussi une collaboration cette année avec l'école Ferrandi qui nous accueille pour faire un atelier cuisine en nous permettant d'utiliser le lieu qui n'est pas des moindres pour organiser un atelier cuisine et en plus avec des élèves du coup qui se portent bénévoles pour nous accompagner et nous aider à l'organisation de cet atelier avec Dania, la cuisinière qui organisera cet atelier.
Aux côtés des restaurateurs, combien de personnes qui sont plutôt dans un processus de formation, des personnes réfugiées, comment est-ce que vous les avez trouvées et de quel pays elles viennent ?
Alors cette année, on a deux chefs qui viennent d'Afghanistan, Haroun et Murtaza. Batoul qui vient du Tchad mais qui est passionné de cuisine, notamment d'Arabie Saoudite et qui connaît les cuisines de pas mal de pays différents d'Afrique, donc c'est hyper intéressant aussi en partage. On a Pema qui vient du Tibet. Et Dania, du coup, qui est syrienne. Et comment est-ce qu'on a été en contact avec eux ? Dania, elle a participé les années précédentes et c'était grâce à Tous pour la Syrie qu'on avait eu son contact. Et sinon, pour les autres, c'est différentes structures et associations qui font partie aussi de notre réseau à qui on envoie la demande quand on cherche, du coup, on fait un appel aux cuisiniers, notamment Koalia, Codico. Donc Tous pour la Syrie, comme je disais, des collectifs aussi de différents quartiers de la ville de Rennes, les CADA, le CLPS, voilà, et pas mal d'autres structures qui accompagnent ces personnes-là, DIDA aussi, qui accompagnent ces personnes-là au quotidien.
L'association DIDA, c'est l'association d'ici et d'ailleurs, et pour les CADA, ce sont les centres d'accueil des demandeurs d'asile.
Non mais en fait, moi, j'ai besoin de beaucoup regarder avant. Donc, c'est pas juste, je suis arrivée à la fin. C'est pas mal.
C'est vite.
Merci.
Moi, c'est Lisa Guillemot. Je suis chef de cuisine et gérante avec Martin Delanoé de la Pimuette à Champy. On est installé ici depuis 5 ans. C'est un bar-restaurant, donc on fait pas mal de restauration le midi, beaucoup de gens qui travaillent, qui passent ici le midi, donc c'est un service assez rapide, assez rythmé. On fait quand même pas mal de couverts parce qu'on a 60 places en intérieur et presque 100 en terrasse. On est ouvert également le soir, donc plus en bar. On fait une cuisine, plus de plats à partager le soir, de grignotage qui s'accompagne des 8 bières qu'on a à la pression. Et on fait une cuisine, c'est un peu difficile de la définir, mais déjà avec des produits de saison. On fait de la cuisine, forcément un peu de cuisine française, mais on aime bien essayer plein de choses. Et surtout, on a des très bons producteurs, notamment de légumes et d'aromatiques. Alors pour les aromatiques, ça vient du Blône. C'est une association qui s'appelle les Colverts, qui habituellement n'a pas l'habitude de travailler avec des restaurants, enfin en tout cas, ce n'est pas un but commercial. Et comme j'ai un peu tanné Aline qui est au Blône, je lui ai dit quand même vraiment c'est trop chouette ce que tu fais parce qu'elle a vraiment une variété assez dingue d'aromatiques. Et en fait c'est trop chouette, ça change vraiment. Des fois il y a des gens qui viennent nous voir en me disant waouh, le goût c'est incroyable. Je dis franchement j'ai rien fait.
My name is Pema, I'm from Tibet, I'm 27 years old, I live in here in France and visited 1 year ago. Now I learn French language and French here.
Vous êtes en train d'apprendre le français.
Oui.
And it's difficult.
It is very difficult. I learn now is I learn A2.
Niveau A2.
A2.
Oui.
Ok, niveau A2.
Ouais.
On participe au Refugee Food Festival parce que Manon et Elise nous ont sollicité. Et moi, je connaissais déjà de nom le festival et on a accepté tout de suite parce que je trouve que l'initiative, elle est géniale. Je trouve surtout qu'à par le biais de la cuisine, on peut transmettre beaucoup de choses et ça nécessite justement pas forcément de parler la même langue. Quand on se comprend pas forcément, qu'on n'a pas la même langue, on passe beaucoup par les gestes, par l'observation, et on a toujours tendance à dire « oui, ça va être compliqué, on parle pas la même langue », et en fait c'est beaucoup plus reposant, parce qu'on pose pas 1000 questions vu qu'on peut pas. Et donc on est dans l'observation.
Et dans le faire.
Exactement. Et c'est surtout que ça permet de découvrir des choses sans prendre l'avion, quoi, donc c'est pas mal. C'est s'ouvrir à d'autres cuisines, ça permet d'apprendre des choses sans forcément traverser la terre. Et en plus, ça permet de découvrir des nouveaux produits, des techniques différentes. Ça fait se remettre en question sur certaines choses. C'est vraiment intéressant. Et donc, l'insertion des personnes réfugiées par le biais de la cuisine, c'est un truc qui me tient à cœur. Enfin, donc là, il y a Pema, mais nous, en cuisine, on est 3. Donc, il y a Thomas qui est arrivé ici en apprentissage il y a plus de 3 ans. Et qui ensuite est resté parce qu'on lui a proposé un CDI et il est toujours là et c'est génial. Et donc après Thomas, il y a Bismillah qui est arrivé, qui lui est d'origine afghane. Moi, j'ai jamais eu de réticence à employer une personne qui vient d'ailleurs, au contraire.
Un mot s'il fallait décrire Pema.
C'est dur, un mot.
Ouais.
Un mot.
Ou plusieurs.
Je dirais déjà rapide, très rapide, efficace et solaire.
If you had to pick one word to describe Lisa, what word would you choose?
She's very good. Anything I do in kitchen, she helps me everything. She's very nice man.
Il va y avoir quoi dans l'assiette?
Il va y avoir plein de choses.
Oui.
Les momos.
Oui. Inside like meat and onion and garlic, some soy sauce.
En fait, on fait deux types de momos. Il y a les momos au bœuf avec donc l'ail, l'assaisonnement, tout ce qui va avec. Et on fait aussi un momo végétarien avec du coup la shiitake, blette. On a utilisé les légumes de saison parce qu'au début, Pema, elle tenait à ce qu'on utilise. Elle dit, il y a du chou. Je dis, ouais, mais là, le chou en ce moment. C'était assez drôle aussi d'échanger là-dessus sur la saisonnalité, eux, les produits qu'on peut trouver chez elles et en fait qu'on trouve pas ici.
Et donc les momos qui seraient des ravioles ou...
C'est des raviolis, on peut dire ça. Si on veut dire un mot français, on va dire ravioli. Avec ça, on va le servir avec une sauce tomate pimentée raisonnablement. À côté de ça, donc on fait le chana masala, qui est une salade de pois chiches avec un mélange d'épices. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a de la coriandre, du curcuma, de l'ail, du gingembre, du curry. Et ça, c'est servi avec un pain. Comment il s'appelle le pain?
Timo. Ouais.
Il y a ça, il y a les pakora. C'est une sorte de beignet qui, à la base, Pema, normalement, elle le fait plus avec les pommes de terre. Donc là, on a aussi un peu modifié pour diversifier. Donc on l'a fait à la courgette, au curcuma, pas mal d'ail encore et d'oignons. Et à côté de ça, on a une salade de légumes, donc là qui est à base de carottes, concombres, vinaigre.
Olive.
L'huile d'olive.
Sésame.
Sésame.
Oui.
Et jus de citron.
Oui, citron.
Et jus de citron. Et en dessert, donc au Tibet, ils consomment le thé au lait, au beurre. Ça tient au corps. C'est riche. Et on s'est dit, ouais, ça va faire beaucoup là quand même pour finir le repas. Donc on a un peu modifié la recette. Ouais. Et donc on a fait du tapioca qu'on a cuit dans l'infusion de thé. Et on n'a pas mis du lait de yak, on a mis lait de coco et lait de vache. Et on a quand même un peu salé, sucré. Et on ne voulait pas mettre du beurre dedans, donc on a fait un crumble au beurre et aux abricots secs.
Peut-être juste demander à Pema, after that, you would like to continue to become a cook, chef?
I like that. Yeah. I never do in a restaurant. First time I here.
It's the first time you cook in a restaurant?
Before I all in my country just a house meet, not in restaurant.
Quand on s'est rencontrés, enfin, je crois qu'elle était stressée. Et au fur et à mesure, ça s'est déjà détendu. Au vu de l'essai qu'on a fait, j'ai dit, t'as pas d'appréhension à avoir, franchement.
Je peux faire un truc ou...
Mais c'est pas mal ce que tu fais, Bismillah, je trouve.
Vous avez fini de bouler ?
Bah oui, il reste plus qu'à partir. Hein.
Combien de temps est-ce qu'ils se sont rencontrés avant la date du repas ?
C'est assez variable, mais souvent, du coup, il y a deux rendez-vous. Un premier rendez-vous où on les fait se rencontrer, où ils font connaissance, où on élabore une première ébauche de menu. Et la plupart du temps, c'est rare les cas où on ne peut pas le faire, mais on fait un deuxième rendez-vous qu'on appelle de testing, où on va essayer au moins une recette, voire plusieurs, pour prendre possession un petit peu de la cuisine, un peu mieux faire connaissance avec les équipes et la personne réfugiée qui est accueillie, et aussi tester des recettes où peut-être qu'on s'est mal compris. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas professionnelles, donc qui ne sont pas capables forcément d'établir une recette avec des grammages. Ils vont faire ça un peu au feeling, et du coup, c'est important aussi d'essayer de voir. Le restaurateur va prendre des notes parce qu'il a besoin de ça pour faire ses achats, parce que de faire une recette pour 6 personnes chez soi, c'est pas la même chose que quand on attend 60 personnes un soir dans un restaurant.
Pour les auditeurs intéressés qui souhaiteraient venir découvrir le Refugee Food Festival, il reste des choses à vivre d'ici dimanche prochain. On dit quoi?
Et il reste encore des places pour jeudi soir à la Pimuette à Champi pour un menu franco-tibétain. Et pour la clôture, le brunch chez Bloom Pop le dimanche 23, qui là sera préparé par Batful et l'équipe de Bloom Pop, avec un DJ set pendant le temps du brunch, et aussi l'après-midi, une fresque de l'alimentation qui est proposée du coup sur inscription entre 16h et 19h, qui permettra aussi de sensibiliser, en plus que sur la situation des personnes réfugiées, à l'alimentation, le mieux manger et comment on peut gérer notre impact individuellement et de manière commune sur cette partie-là aussi.
Last time we had this conversation, I know just how it continued. And I don't want to love you under these conditions. Highway blues, don't know what it does to you. I'm going in circles. Having dropped all of our broken dreams, my mind is baffled while inside this merging cloud. I'm going in circles.
Ella Raphaël, Mad Sometimes, c'est le titre que vous venez d'entendre, une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur ici à la radio. Ce morceau, vous le retrouverez sur un album du même nom, dont la sortie est prévue au mois d'octobre chez Fire Records. Ce sera le premier disque pour Ella Raphaël, musicienne et chanteuse britannique que vous venez d'entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Émission d'information locale qui n'aura pas lieu, en tout cas sous le format habituel, pour la journée de vendredi. En effet, demain, émission spéciale qui durera 2 heures, de midi à 14h. Ce sera en direct et avec de nombreux invités en plateau. Nous parlerons du secteur culturel qui nous est cher face à la montée de l'extrême droite et à sa possible arrivée au pouvoir d'ici quelques semaines. Il y aura même de la musique. Le reste, c'est à découvrir donc demain, vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique, de midi à 14h sur Canal B, évidemment. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'il nous reste ? La recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes d'événements à vivre dans la région rennaise. Aujourd'hui, on annonce 2 rendez-vous à vivre dimanche. On prend un petit peu d'avance. D'abord, de 14h à 21h, l'écomusée de la Bintinet accueillera un Face Days au programme Initiation aux danses traditionnelles avec le Cercle Celtique de Rennes. L'association La Petite Planche sera de la partie pour découvrir ou redécouvrir le Palais Breton. On nous promet des galettes saucisses, c'est important. Et puis la fête battra son plein dans la cour du musée avec les Chaos Toujours, le duo Bobinet le Breton, accordéon et saxophone, Zig Dastour qui comprend notamment Dubignou, Pierrick Cordonnier à l'accordéon et le duo chanté 2 ans. Le détail de cette journée est à retrouver en ligne sur le site écomusée-rennes-métropole.fr. Après ou avant avoir dansé, vous pouvez aussi aller marcher aux côtés des associations féministes et de syndicats qui sonnent l'alerte. Rendez-vous donné sur l'esplanade Charles de Gaulle dimanche 23 juin à 15h. On y retrouvera de nombreux syndicats, dont la Confédération Paysanne, l'association Histoire du Féminisme de Rennes. Leur objectif est clair, c'est d'empêcher le Rassemblement National d'arriver au gouvernement d'ici un peu plus de 2 semaines et d'empêcher par là même la casse des droits et libertés des femmes, des personnes racisées, handicapées, LGBTQIA+, mais aussi des personnes migrantes, des filles et des enfants. Le communiqué rappelle par ailleurs que c'est ce qui se passe déjà ailleurs en Europe quand l'extrême droite arrive au pouvoir. L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.